Bonjour à tous. Vous allez bien? Comment trouvâtes-vous que je vous trouvasse ce matin? Ok. Merci pour la louange. C'est toujours merveilleux d'avoir des bons musiciens. Moi, j'étais là avant vous, alors je les ai entendus répéter. C'est du travail. Alors, je descends de mon nord natal, mais je vais pas vous parler en ch'ti, parce qu'on va pas se comprendre. Et je voulais aborder avec vous un des plus grands thèmes de la Bible, la consécration à Dieu pour son service. En lisant dans Nombre, au chapitre 8, quelques versets. Nombre 8, verset 5. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Prends les Lévites du milieu des enfants d'Israël et purifie-les. Voici comment tu les purifieras. Fais sur eux une aspersion d'eau expiatoire, qu'ils fassent passer le rasoir sur tout leur corps, qu'ils lavent leurs vêtements et qu'ils se purifient. » Verset 11. « Aaron fera tourner de côté et d'autre les Lévites devant l'Éternel comme une offrande de la part des enfants d'Israël. Et ils seront consacrés au service de l'Éternel. » Verset 14. « Tu sépareras les Lévites du milieu des enfants d'Israël et les Lévites m'appartiendront. Après cela, les Lévites viendront faire le service dans la tente d'assignation. » C'est ainsi que tu les purifieras et que tu les feras tourner de côté et d'autre comme une offrande. Car ils me sont entièrement donnés du milieu des enfants d'Israël. La volonté de Dieu n'a pas changé depuis le temps de l'Ancien Testament. Et l'Éternel parla à Moïse, mais aujourd'hui, il nous parle et il nous dit d'abord, premièrement, il faut que l'on puisse se purifier. Deuxièmement, se consacrer. Troisièmement, se séparer. Et le verset 15 conclut en disant, après cela, après avoir fait ces trois choses-là, pas avant, les Lévites viendront faire le service dans la tente d'assignation. Et le verset 16 dit, « Car ils me sont entièrement donnés. » La consécration est un acte, autrement dit. C'est un engagement. Ça ne doit pas rester un vague souhait, une aspiration lointaine, très lointaine de mon horizon chrétien. C'est quelque chose, Dieu s'attend à voir que nos vies, comme nous l'avons chanté ce matin, « Je te donne ma vie », ce soit concret. C'est pas, nous voulons pas faire partie des chrétiens qui sont toujours un peu dans le vague, qui disent « Seigneur, que ta volonté soit faite ». Et puis en fait, dans les actes, c'est « Je fais quand même ce que je veux ». Non, Dieu est exclusif, Dieu est saint. Et souvent, nous passons à côté de ce que Dieu veut pour nous parce que nous sommes passés à côté de sa parole. quand il nous parle, à plusieurs reprises, il nous appelle à consacrer nos vies pour son service. Un homme de Dieu a dit que le mot préféré de Satan, c'est demain. Demain, je me lèverai demain pour prier, parce qu'aujourd'hui, je suis pas en forme. Demain, je lirai ma Bible. À partir de demain, vous savez, si vous faites bien attention, ça vient tout le temps dans notre raisonnement comme ça. Et puis en fait, on rachète pas le temps et on passe à côté de ce que Dieu veut pour nous. Parce que le mot consacré veut dire rendre sacré en dédiant. Je dédie ma vie à Dieu. Alors il y a des priorités, forcément. Mes priorités ne sont plus ce que je pense. Souvent, quand on discute avec des enfants de Dieu, vous savez, on exprime toujours ce qu'on a dans le fond du cœur, en fait. Et on se trahit par nos propres paroles. Il suffit d'écouter dans les conversations et on s'aperçoit qu'il y a des choses qui sont vraiment importantes dans nos vies. Mais on se rend compte que c'est plus important que d'être disciple de Jésus-Christ, que d'être servante du Seigneur. Tous les jours, en fait, tous les jours que Dieu fait, nous sommes à son école. Nous croyons que c'est seulement quand on a déjà quelques années de vie chrétienne que Dieu nous appelle à son service. Non. Daniel avait 19 ans quand déjà il priait 3 fois par jour. Il cherchait la face de Dieu dans un pays étranger. Il avait de quoi être en colère, disant, mais Seigneur, nous sommes dans l'esclavage. Mais lui, il ne perdait pas son objectif. Servir Dieu en toutes circonstances. Et je pense à Joseph qui se retrouve injustement condamné. 12 ans de prison. Il aurait pu vraiment. Mais là, en fait, quand on écoute bien la suite de son histoire, on s'aperçoit qu'à travers ces 12 années de prison, Dieu était en train de le former à son école. Si on lui avait dit qu'il allait devenir le premier ministre d'Égypte, il l'aurait jamais cru. Mais si tu savais ce que Dieu veut faire avec ta vie, si on te le disait aujourd'hui, tu ne le croirais pas. Alors, la seule solution pour atteindre le plan de Dieu pour ta vie, c'est de vouer ta vie à Dieu, de la dédier à Dieu, plus que tout, plus qu'avant tes études, ton futur mariage, ta future profession, plus que tout, tu dois dire, Seigneur, c'est toi, c'est ton royaume avant toute chose. Parce que quand on veut aller loin avec Jésus, il y a toujours, toujours, toujours des moments où il faut sacrifier quelque chose, abandonner quelque chose. Et Dieu nous demande toujours quelque chose qui compte pour nous, forcément. Et des enfants de Dieu sont passés à côté de leur vocation. Parce que quand il a fallu choisir Dieu, le royaume de Dieu, ils ont choisi les choses temporelles. Alors après, il y a une frustration. On se dit, Seigneur, et combien nous avons d'enfants de Dieu comme ça qui sont déçus, rétrogrades. Parce qu'ils disent, mais moi j'avais des projets, je voulais te servir, le temps a passé et j'ai rien vu. Dieu sait ce qu'il fait quand il nous appelle. Et je crois que quand une âme nouvelle se convertit, il faut tout de suite essayer de discerner qu'est-ce que Dieu va lui donner comme don, comme talent. Qu'est-ce que Dieu va lui donner? Et l'aider dans ce que Dieu lui a donné. Alors, si vous ne savez pas encore ce que Dieu vous a donné, je vais vous donner une piste pour que vous puissiez découvrir ce que Dieu vous a donné. Parce que souvent, on se focalise sur la recherche du don et du talent. Moi, je vous conseille plutôt de regarder dans votre cheminement, dans votre fonctionnement, où sont les fruits. Et les fruits vont vous amener à l'arbre. Jésus a dit, on reconnaît l'arbre à son fruit. Et si vous regardez dans votre vie quotidienne, même dans votre église, on peut vous le dire, là, il y a des fruits. Mais là, tu t'obstines dans une direction, c'est pas ce que Dieu veut pour toi. Et tu regardes les fruits, et ça va t'amener au don que Dieu t'a donné. Vous avez tous entendu parler de Smith Wigglesworth, un homme de Dieu du 19e siècle. Il a commencé à servir Dieu au milieu des salutistes. Et c'est surtout sa femme qui prêchait. Lui, il accueillait les âmes après les réunions pour parler avec eux. Et il ignorait totalement son don. Et puis il a fonctionné comme ça pendant des années. Et un beau jour, quelqu'un qui est venu le voir après la réunion a demandé à ce qu'il puisse prier pour une chrétienne qui était à l'article de la mort. Alors lui, c'était pas tellement son truc. Mais il s'est dit, on peut toujours prier. Et donc il est allé avec cette personne voir cette sœur alité à l'article de la mort. Et il a prié très simplement. Et cette sœur est décédée à ce moment-là. C'était la fin. Et lui, à ce moment précis, Dieu lui dit, tu vas prier pour elle, elle va ressusciter. Oh ! Il faut toujours faire attention parce que quand Dieu nous parle, c'est pas toujours dans le sens qu'on attend. Alors il a obéi, c'était un gaillard de 2 mètres, 120 kilos. Il a pris la sœur en dehors du lit comme ça, il l'a collée au mur. Et il a dit, au nom de Jésus, Jésus m'a dit de prier pour toi, tu reviens à la vie. Et ça a marché. Elle est ressuscitée. À partir de là, il a découvert son don. Et partout où il passait, dans tous les pays, des foules de milliers de personnes venaient. Parce que, quelle que soit la maladie que les gens avaient, cancer, paralysé, fauteuil ou pas fauteuil, il n'y avait pas photo, tac, les gens étaient guéris. Alors il y a des dons de Dieu en toi. Il y a forcément quelque chose. Parce que Matthieu 25 dit que nous avons tous reçu des talents. Dieu nous a appelés, 1 Thessaloniciens 1:9. Vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Pas pour se servir ou se faire servir. Ton église n'est pas un self-service où tu viens tout le temps pour dire donne, donne, donne. Il faut donner aussi. Il y a un don. Alors il faut partir à la recherche, mais toujours avec cette idée que Dieu va nous va nous parler, il va nous guider, si on a ce souci de nous purifier, de nous consacrer, de nous séparer du monde, de l'esprit du monde. Alors fais attention, par exemple, à ce que tu regardes déjà à la télévision, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont pas bonnes. Et si tu veux te livrer à une petite expérience, le soir, quand tu as fini de regarder ton film, Esprit criminel, essaye de prier une fois que tu as éteint la télé. Tu n'y arriveras pas. Parce que tout ce que tu as regardé là, c'est rentré en toi. Ça t'a vidé. Parce que tu sais, le Saint-Esprit, quand tu regardes ces choses-là, lui, il regarde pas. La consécration, c'est quelque chose que tu dois poursuivre comme la sagesse. C'est pas quelque chose qui va venir automatiquement parce que nous sommes humains, nous sommes charnels, la chair est faible. Et Paul dit, je traite durement mon corps, je le tiens assujetti, c'est pas lui qui commande. Et si tu veux te livrer à une expérience pour savoir si tu es spirituel ou charnel, je vais te donner un conseil. Demain matin, à partir de demain matin, surtout si tu le fais pas, tu mets ton réveil une heure à l'avance pour te lever et dire « Je vais me lever une heure à l'avance maintenant pour consacrer du temps à la prière, à la méditation de la parole de Dieu. Je vais chercher la face de Dieu avant d'aller dans mes occupations. » Et quand le réveil va sonner, c'est là que tu vas savoir si tu es spirituel ou charnel. Parce que si tu l'éteins, et puis que tu te dis « Ah, encore 5 minutes, tu es charnel. » Mais si tu dis, même si tu n'y arrives pas le premier jour, tu te dis « Demain, mais pas trop souvent demain, hein, je vais recommencer, je vais me battre avec ce corps qui me tient attaché aux choses de la terre et qui m'empêche de me lever pour adorer mon Dieu. » Et comme a dit Reinhard Bonnke, à force de faire la même chose, on devient des professionnels. Parce que, voyez-vous, je ne peux pas servir Dieu comme je suis. Quand je viens de naître, spirituellement, je suis un bébé. Et il y a des pasteurs, toute l'année, pendant 52 cultes, ils donnent des biberons à leurs bébés, qui ne grandissent pas. Mais en fait, c'est de leur faute, parce que moi je crois pas que Dieu nous a appelés pour qu'on reste tout le temps les mêmes. Il y a forcément une croissance dans la foi, dans la marche avec Dieu. Alors tu penses à Charal. Non, c'est une pub. Je veux dire par là, tu penses au steak. Tu dis, moi, je veux laisser le biberon. Il me faut du Charal. Et comme ça, tu vas grandir parce que tu vas être nourri davantage. Parce que la Bible nous montre que Dieu utilise ce qui lui appartient. Vous comprenez ça? La consécration, le but de Dieu, c'est que déjà on lui appartienne pour qu'il puisse nous utiliser et nous envoyer. Peut-être que vous croyez que être prédicateur de l'évangile, c'est facile. Mais je peux vous dire une chose, c'est que tout prédicateur vous le dira, il faut qu'il puisse d'abord appliquer à sa personne ce qu'il a l'intention de prêcher. Surtout sur des grands sujets de la parole de Dieu. Nous savons tous qu'il faut être consacré à Dieu pour qu'il nous utilise. Mais est-ce que nous le faisons dans le quotidien? Nous avons lu « Tu les purifieras ». Il n'y a pas de consécration valable sans la purification. On dit que la volonté des volontés de Dieu, si vous cherchez vraiment la volonté des volontés de Dieu, c'est la sanctification. Il faut avoir ce projet dans sa vie de sanctifier nos vies, de les purifier par la victoire du Seigneur. Et j'aime bien ce verset de 2 Timothée 2:21 qui nous dit « Ils se conservent purs et sanctifiés pour être utiles à leur maître. » Ils se conservent purs et sanctifiés pour être utiles à Jésus. Et le verset 14 nous dit « Tu sépareras les Lévites. » Donc la consécration, c'est la séparation. Tout ce qui est du monde, de l'esprit du monde. Et je vais vous dire, ce n'est pas la marche par l'esprit comme nous invite à le faire la parole, Romains 8, qui est difficile. Non, parce que Dieu ne nous demande pas quelque chose de difficile. Il nous donne ce qu'il ordonne. Mais ce qui devient compliqué, c'est quand on essaye de servir le Seigneur avec 50% de l'esprit et 50% de la chair. Alors là, il y a un combat à l'intérieur de nous, hein. Oui, Seigneur, j'entends bien, tu me dis d'abandonner ça, d'aller dans telle direction, demain. Il y a, j'ouvre une parenthèse, dans une des deux églises dont je m'occupe, il y avait un couple qui vivait dans le concubinage quand j'ai pris cette deuxième église en charge, et cette sœur était dans la louange, dans l'adoration, donc comme je leur ai dit en arrivant, je ne badine pas avec la sanctification, je ne badine pas, parce que je sais très bien que si on ne se sanctifie pas à Dieu, si on se sépare pas de ce qu'il faut se séparer, eh bien ça marche pas, on est toujours déçu, on n'est pas béni, on progresse pas, parce qu'en fait l'interdit il est en nous, il est pas chez les autres. Et c'est pas la peine d'aller courir écouter tous les plus grands prédicateurs, ça changera rien. Donc j'ai dit à notre sœur que voilà, vu sa position, je préférais qu'elle se retire de cette fonction et qu'elle puisse réfléchir avec son conjoint, plutôt de légaliser d'abord sa situation et après on verrait. Alors sur le coup, j'ai appris par la suite que elle s'était empressée d'aller téléphoner à quelqu'un de l'église. Elle a fondu en larmes au téléphone, comme quoi j'étais un pasteur dictateur. Elle n'a pas dit ça, mais c'était peut-être sa pensée. Et cette sœur est venue me voir pour défendre la cause de notre autre sœur. Et puis elle me dit comme ça, tu sais, vraiment, elle a été vraiment choquée, elle a pleuré, elle était effondrée au téléphone. Et alors là, une réponse m'est venue du tac au tac. C'est souvent comme ça que Dieu fait avec moi. Je lui dis, ma sœur, il y a quelque chose qui m'inquiète dans ce que tu me dis, parce que cette sœur a pleuré, parce que, bon, je l'avais décalé de sa fonction momentanément, j'ai bien dit. Mais vois-tu ce qui m'étonne? C'est qu'à aucun moment, elle ne s'est inquiétée de sa position, de la manière dont elle vivait sa foi, sa consécration dans l'Église. Ça, ça ne l'a pas choquée. Elle n'a pas pleuré parce qu'elle a offensé Dieu. Non, mais par contre, elle a pleuré parce que, momentanément... Et voyez, c'est un peu comme ça. Il faut faire attention. On n'aime pas qu'on nous dise ça. Mais en fait, il y a comme ça des attitudes dans nos vies qui montrent que on n'est pas gêné de ne pas marcher au quotidien selon la parole de Dieu. Mais on est gêné quand quelqu'un nous dit quelque chose qui nous dérange. Mais si cette personne a raison, bénissons Dieu et marchons sur notre susceptibilité. Un chrétien ne doit pas être susceptible. En tout cas, il a besoin d'être guéri s'il l'est. Autrement, à chaque fois que quelqu'un va nous dire quelque chose, on ne va pas écouter. Séparation. Et 2 Corinthiens 6, 17 nous dit « Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Sortez. » Et le verset 16, « Car ils me sont entièrement donnés. » Entièrement donnés. Et ce thème revient souvent dans la parole, surtout dans l'Ancien Testament. Il faut donner son cœur à Dieu entièrement, entièrement. C'est pas, faut pas oublier que le plus grand commandement, c'est tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, toute ta pensée. Et moins que tout, ce n'est pas tout. Si nous gardons des choses qui ne sont pas vraiment à Dieu dans nos vies, c'est pas vraiment tout. Il faut appeler un chat un chat. Donc nous pouvons voir que purification plus séparation égale service, puisque le verset 15 nous dit « après cela, après ». Après avoir été purifiés et séparés, ils viendront faire le service. Et dans 1 Timothée 4,15, l'apôtre Paul invite Timothée à se donner à Dieu, vous voyez, se donner à Dieu, tout entier. Donne-toi tout entier. Afin que tes progrès soient évidents pour tous, toi, donne-toi d'abord toi, tout entier. Et si vous allez dans le grec, c'est très fort parce que donne-toi tout entier, c'est sois dedans dans ta consécration, dans ce don de toi-même. Il faut que tu sois dedans, pas à côté. À côté, il y a du pâté. Dedans. Il faut que le dedans soit dans ton engagement. Toujours. Dans la parole, il y a ce thème qui revient. Consécration égale aussi discipline de Timothée 2,4. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et les affaires de la vie, elles nous pourrissent la vie. Hein, en partie. Faut toujours courir, regarder l'heure. Rendez-vous par ici, rendez-vous par là, le téléphone, l'internet, le boulot, les enfants. Et si on ne fait pas attention, on se laisse manger. Surtout aujourd'hui, nous vivons trop rapidement. C'est pourquoi les hôpitaux sont pleins. Les gens craquent, vous comprenez? On leur demande trop. Et il y a toujours la peur de perdre son travail, son logement. Mais nous devons d'abord faire passer Dieu avant. Consécration égale aussi disponibilité. Se rendre libre pour être disponible. Et j'ai pu observer qu'il y a des vies chrétiennes qui sont tellement remplies du quotidien et du légitime qu'il devient impossible à Dieu de les utiliser. Le légitime, le quotidien, ça vous remplit la vie. Les journées deviennent trop courtes. Et puis le matin, on n'a pas prié, on a dit « je le ferai ce soir », mais le soir, on a dit « je le ferai demain ». Et puis on lit sa Bible une fois par semaine, ou deux fois, ou pas du tout. Et quand vient l'heure de la réunion de prière, la seule réunion de prière qu'il y a dans nos églises par semaine, on n'est pas là. Il y a du football. Alors là, faites gaffe, parce que la Coupe du Monde arrive. Dieu ne peut faire, c'est ça que nous devons comprendre, Dieu ne peut faire qu'avec ce que nous lui donnons de nous-mêmes. Ça c'est évident. Si j'ai pas le temps, comment va-t-il m'utiliser? Vous savez, dans notre église, on prie tous les soirs. Ah, il faut avoir le temps. Si déjà vous venez pas à la seule réunion de prière de votre église, bon, nous c'est tous les soirs. Nous sommes dans cette perspective de demander à Dieu un de ces grands réveils d'autrefois. Je vous invite à lire tous les livres sur les réveils, et je pense à ce que disait Charles Finney. Si nous n'avons pas le réveil dans notre temps, les âmes reste dans la mort. 66 millions de Français nous sommes. Il n'y a même pas 1% de convertis. Alors, commence à intercéder. Va chaque jour à l'autel de la prière et crie à Dieu. Oh Dieu, je refuse cette situation. Je refuse. Je refuse que les âmes restent dans la mort. Et demain, tu reviens encore à l'autel de la prière et tu combats. Tu combats pour Dieu, contre toi et contre l'ennemi. Parce que quand tu veux devenir un intercesseur, tu combats déjà contre toi. Il suffit que tu décides à devenir un intercesseur et à investir du temps dans la prière pour te rendre compte que tu n'y arrives pas. Parce que cette chair, elle est là. Et l'emploi du temps. Alors c'est déjà, quand on veut atteindre cette dimension de l'intercesseur, c'est déjà un combat contre nous, c'est même pas contre Satan, c'est contre nous, parce qu'on a du mal à se discipliner, à se consacrer. Mais nous devons y arriver. Dieu va nous aider. Christ a eu la victoire. Comme je dis souvent, il n'est pas simplement venu pour nous purifier de nos péchés. Il est venu pour nous donner la victoire sur le péché. La victoire sur la chair. Avant de donner de la part de Dieu, il faut se donner à Dieu. Se donner. Et souvent, on se fait du souci parce que les années passent, on est chrétien, on voudrait servir Dieu beaucoup mieux, beaucoup plus loin. Mais en fait, on grille les étapes, on ne sait pas vraiment donner. C'est ça. Dieu utilise ce qui lui appartient, ce qui lui appartiennent. Et quand les parents de Jean-Baptiste ont été choisis, la Bible dit qu'ils étaient irréprochables. Ils servaient Dieu de manière irréprochable. Et quand Dieu a dû choisir une femme pour enfanter son fils, il a choisi Marie. Mais Marie dit, je suis la servante du Seigneur. Elle ne dit pas, je serai peut-être un jour. Non. Il n'y a plus qu'à Faucon, c'est pas dans la Bible. Et il y a deux sortes de chrétiens. Il y a ceux qui disent tout le temps « je ferai » et puis il y a les autres qui disent « moi je ferai ». alors il faut changer de camp. Mais sache une chose, tu ne peux pas consacrer ta vie à Dieu et arriver dans une impasse. J'ai relevé le défi. Et je sais que ce que je dis est vrai. Tu ne peux pas prier Dieu, investir du temps dans la prière, et les choses ne bougent pas. Non. Si les choses ne bougent pas dans ta vie, dans ton église, comme tu le voudrais, sache une chose, tu es responsable aussi. Alors si tu changes ça, tu te dis, moi, dans mon petit coin, j'irai à la réunion de prière et puis je investirai encore du temps dans la prière à la maison parce que je veux que ça change. Et comme a dit Boone, les délais de Dieu ne sont pas des refus. C'est pas parce que tu attends l'exaucement que Dieu a dit non. Dieu a des délais. Et à travers ces délais, figurez-vous que il saisit la perche que nous lui tendons parce que il se dit, ah, tu m'as bien fait attendre avant de prendre toutes ces décisions-là aujourd'hui. Ben, moi aussi, je vais te faire attendre aussi maintenant. Et puis, en même temps, ça forme notre persévérance, ça forme notre foi. Mais Dieu nous exauce toujours. Parce que la Bible est formelle. Si nous demandons quelque chose à Dieu, il va nous le donner. C'est formel. Alors parfois c'est pas toujours le côté foi prière qui a besoin d'être formé, c'est le côté foi. On a prié mais on n'a pas la foi. Et c'est pourquoi l'apôtre nous parle dans Jacques 5, il nous parle de la prière de la foi. Et une fois j'ai dit ça au téléphone à une sœur qui demandait la prière, elle me dit mais c'est écrit où ça? C'est la première fois qu'elle avait entendu ça. Et alors, elle me dit, mais alors, si je comprends bien, on peut avoir la prière sans la foi. J'ai dit, t'as tout compris. Il faut la prière de la foi. Et si nous marchons selon sa volonté, la Bible dit, nous pouvons demander. Il va nous donner. Mais la Bible dit aussi que celui qui détourne son oreille de la loi, même sa prière est une abomination. Alors, travaillons sur ce côté-là. Consécration. Et nous allons voir des progrès évidents. Nous allons voir que notre horizon chrétien, vraiment les nuages, commencent à s'en aller. Pour que Dieu me donne un service à faire, il faut abandonner des choses, forcément. Au début, on ne les voit pas, ces choses à abandonner. Vous savez, tous les vieux routiers de l'Évangile, ben moi je commence à en faire partie depuis 1970 que je suis converti, ils vous diront que c'est incroyable qu'est-ce qu'on regrette les premières années, parce qu'on se rend compte que finalement on a perdu beaucoup de temps. Pourquoi? Parce que on se croyait parvenu. On se croyait selon la volonté de Dieu. Mais avec le temps, Dieu nous fait passer à son école et on s'aperçoit quand on fait le film en arrière, on se dit, mais pauvre de moi, tu n'avais rien compris. Bon, un homme de Dieu a dit qu'il faut un minimum de 20 ans pour former un serviteur de Dieu. Et c'est pas une école biblique de 3 ans. Pour vous, ça sera plus court. Merci Seigneur. Mais pour terminer, je vous dirai que Jésus n'a jamais promis. Jamais. Dans la Bible, vous verrez jamais une promesse comme ça. Il nous a jamais promis le succès si nous marchons 50% pour lui et 50% dans le monde. C'est toujours les 50% dans le monde, nos choix qui sont pas selon la parole de Dieu, qui vont grignoter. Et nous avons trop aujourd'hui de chrétiens rétrogrades à cause de ça. Parce que ils ont pensé que devenir disciple de Jésus, c'était facile. Mais Jésus ne nous propose pas quelque chose de facile à la Made in France. La Bible n'est pas Made in France. Jésus nous dit que celui qui veut être son disciple, premièrement, qu'il renonce à lui-même. Waouh, c'est pas français ce truc-là. Renoncer à soi-même. Pouh. Et je pense à l'appel de l'apôtre Paul. Ananias s'entend dire hein, concernant le futur ministère de Paul. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir. Waouh. Avec ça, on n'a pas envie d'y aller. Hein. C'est chaud bouillant. Hein. Mais Dieu a le droit de il a la priorité sur nos vies. Et nous ne vivons plus pour nous-mêmes, nous vivons pour la cause de Christ. Et je suis persuadé que si nous nous relevons le défi, chacun pour nous-mêmes, de nous consacrer à Dieu à 200%, nous allons faire un malheur dans ce pays. Dieu va nous utiliser. Il va nous envoyer, il va nous revêtir de puissance, de son onction. Et il va nous envoyer et nous allons voir nos vies complètement changer. Ce matin, tu as pensé que tu étais venu là pour chauffer la chaise. Mais Dieu veut chauffer nos cœurs. Vous êtes d'accord avec ça? Alors prions. Seigneur, nos vies sont à toi. Et chaque jour, nous te demandons que tu continues en nous ton œuvre. La mort à nous-mêmes, pour que l'homme nouveau que tu as créé, à l'exemple de ton Fils, transparaisse en nous. Que nous puissions attirer par notre consécration, notre sanctification, notre foi, notre dimension avec toi, notre dimension dans la prière et dans le jeûne, que nous soyons en bénédiction pour l'Église et pour les âmes, parce que ce matin, nous voulons tout abandonner à tes pieds. Nous voulons monter avec toi sur cette croix pour ressentir ce que tu as ressenti, pour vaincre le péché. Et nous voulons nous détourner de lui. Nous voulons nous détourner de nos vies chrétiennes confortables, qui n'aboutissent à rien, qui nous déçoivent. Et nous voulons te dire, Seigneur, prends tout, je te donne tout. Mais c'est vraiment vrai, c'est vraiment une prière qui vient du fond de nos cœurs. Aide-nous dans cette voie, parce que ceux qui rentreront demain dans l'Église, ils s'attendront à voir des hommes et des femmes qui connaissent Dieu intimement et qui pourront partager avec eux les dimensions de Dieu. Au nom de Jésus, ton Fils, nous te le demandons. Amen. Ils sont d'accord. Ils sont tous convertis. C'est merveilleux. Que Dieu vous bénisse.